buonasera. Buonasera e benvenuti a Iket Nunc, emissione speciale di La Tela Sonora, qui a Radio Alma. Questa sera parleremo di un soggetto, come al solito, che ci porta a riflettere sulla poesia, in un modo o nell'altro, sulla comunicazione, sulla scrittura. E abbiamo due invitati e, come al solito, cerchiamo di fare questa emissione al di là delle lingue nazionali. Al momento parleremo soprattutto in francese, però eventualmente anche in altre lingue. Donc je passe au français et je vous présente les deux invités de ce soir, Vincent Tolomier et David Giannoni, que je suis très heureuse d'accueillir ici sur un sujet un peu spécial, que ce soir est le réconfort archaïque des mots, formule magique, hypnose et message promotionnel. Donc c'est un peu un défi de pouvoir aborder ce sujet vraiment très très vaste. Mais je vous fais confiance qu'on va entreprendre ce petit parcours, ce petit chemin de façon sûrement très intéressante ensemble et avec les gens qui nous suivent de loin. Donc, je vous donne la bienvenue.
Merci.
Je ne sais pas répondre, mais j'aimerais bien, peut-être comme toute première requête à vous, que vous vous présentiez l'un l'autre, avec juste quelques petits mots sur qui est ce personnage et comment on pourrait évoquer son travail.
On y va.
Vincent Tolomei.
David Giannoni.
Vincenzo Tolomeo.
David Giannoni. Davide Giannoni.
Vincenzo Tolomeo è nato a Namur.
David Giannoni è né a Nice.
E lui vive sempre a Namur.
E David Giannoni ne vit plus à Nice. Il a vécu en Italie, aux États-Unis, et il vit actuellement à Bruxelles.
Vincent Tolomei è un uomo.
David Giannoni aussi.
Vincent Tolomei è una persona molto gentile.
David Giannoni, je pense aussi, è quelqu'un de très gentil.
Vincent Tolomei non è alto.
David Giannoni è beaucoup plus grand que moi.
Vincent Tolomei,
David Giannoni,
è veramente un gran figo.
David Giannoni è un homme que j'apprécie.
Vincent Tolomei è un poeta.
David Giannoni è un poeta aussi à sa manière.
Un vero performer.
David Giannoni è un homme à sa manière, un poeta à sa manière.
Vincenzo Tolomeo.
La manière de David Giannoni et de David Giannoni et de personne d'autre.
Non è sposato con Natalia Toledo.
David Giannoni n'est pas amoureux de Nathalie Toledo. Je suis amoureux de Nathalie Toledo. Nathalie Toledo, je l'aime.
Vincent Tolomei est amoureux de Nathalie Toledo.
Je le suis profondément. Je le suis depuis des années. David Giannoni est amoureux aussi, mais pas de Nathalie Toledo. De qui est-il amoureux?
David Giannoni est innamorato.
Tout simplement, de la vie.
Vincent Tolomei créa une revue avec Otto Ganz.
Je n'ai pas créé de revue avec Otto Ganz.
Perché non riuscì a crearla con lui.
J'ai créé une revue avec Charles Penka. David Giannoni aussi a créé une revue il y a très longtemps en Italie, en Belgique et en Italie.
Et Vincent Tolomei n'a jamais appelé sa revue Maelstrom.
David Giannoni n'a jamais appelé sa revue TTC.
Tombe tout court.
David Giannoni est un homme ayant vécu en Italie, dans un maelstrom d'amitié en Italie, en Belgique et partout ailleurs. Il continue d'ailleurs de le vivre partout, tous les jours.
Tombe très court.
C'était ma revue.
Tout très craintif.
Très, très craintif.
Très, très courbé.
Tout à fait, totalement courbé.
Très, très bien, mais ça, c'est pas TTC.
Mmh, tout à fait. Maelstrom, tu l'as créé quand ? La revue ?
Maelstrom s'est créé lundi prochain.
Et ta maison d'édition, elle s'est créée quand ?
Ma maison d'édition s'est créée lundi prochain.
En même temps que la revue.
Exactement.
Lundi prochain verra la naissance de Maelstrom, la revue, la maison d'édition de David Giannoni.
Exactement. Parce que lundi prochain, nous serons le lundi 19 janvier 2009, 160 ans tout juste après la naissance d'Edgar Allan Poe.
Bel hommage comme création alors de revue belle date.
Hommage au maître.
Hommage au maître. Donc, je suis sûre que c'est de maître qu'on reçoit aussi aujourd'hui.
Absolument.
Tout à fait.
Maître multiple en plus. Je suis sûre qu'ils vont me suivre dans quelques petites évocations partout. Oui, surtout partout avec les mots, sans aucune limite géographique. Donc, ces mots qui finalement réussissent à communiquer au-delà de toute frontière, au-delà de tout âge, au-delà de toutes ces barrières qu'on voit aujourd'hui. Bon, est-ce qu'ils sont puissants et comment sont nés les mots ? D'où viennent les mots, à votre avis ? Qu'est-ce qui fait la différence entre un bruit animal et un mot puissant, humain ?
Bon, David me donne la parole. J'aurais bien voulu qu'il réponde d'abord, mais non, ce sera moi. Bien. Ben, moi, j'ai envie de dire que... Bon, il y a deux... Enfin... Il y a nous vivons tous ici dans une certaine réalité tangible, tous les faits, les objets, nous les voyons, nous vivons des événements, mais il y a une autre réalité qui est à l'intérieur de nous, une espèce de, pour prendre le mot de Michaud, de pays intérieur, de lointain intérieur. Je pense que les mots, ils prennent leur naissance là, ce qui fait notre humanité aussi prend naissance là. Alors, ce monde intérieur, en fait, c'est ce qui nous fait réfléchir, c'est ce qui nous fait parler, c'est ce qui nous fait ressentir des choses, ressentir des émotions. Et je pense que ça vient de là, en fait, de cette petite différence. Il y a un poète français qui s'appelle Christian Prigent qui dit que nous, les êtres humains, nous sommes des erreurs de la nature, dans le sens où il n'y a que nous, sur la Terre, qui avons conscience de ce monde intérieur, qui pouvons en tirer quelque chose, que ce soit des mots, de la musique, de la peinture, tout ce que tu veux.
Donc c'est ça qui connecte aussi au-delà des frontières, effectivement.
Ouais. Okay. Oui, c'est ce qui fait pour moi notre profond lien entre nous, oui.
Oui. Ouais. Et alors, David, tu as envie d'ajouter quelque chose ?
Ben, non.
Non ? Ok. Parce que donc, si alors il y a ce monde intérieur, effectivement, dans le mot hypnotique, il fait peut-être un lien entre l'externe et ce monde intérieur. Et c'est peut-être un accès privilégié qui perce cette frontière.
Le mot même de hypnotique, c'est ça ?
Le mot qui a une puissance hypnotique.
Alors, l'hypnose, le terme hypnotique est un terme médical. Mm-hmm. C'est un terme emprunté au grec hypnos, qui voulait dire sommeil. Mm-hmm. Lui-même venant des divinités, etc. C'est un terme très récent qui correspond à une histoire précise dans l'histoire de la médecine et de la psychologie et des thérapies. Comme le mot surréaliste, comme le mot poétique ou poésie, on l'utilise souvent à tort et à travers. Mes recherches m'ont porté depuis quelques vies à lui préférer le terme de transe, mm-hmm. hein, qui est un peu plus universel et qui surtout est peut-être un peu plus dynamique.
Oui.
Hein, parce que la transe donne l'image du passage, hein, donne l'image aussi du mouvement et est reliée à des rituels hein, qui peuvent varier dans les cultures et dans l'histoire et dans les époques. Et ces rituels de transe nous mettent alors en connexion avec certaines réalités intérieures qui nous reconnectent soit au mythe, soit à nos profondeurs individuelles.
Oui. Voilà. Et justement, l'idée commune est quand même quelque chose qui est lié à un changement de conscience. Il y a quelque chose de la conscience qui va être altérée. Ça, il y a aussi dans la définition d'hypnose et dans la définition de transe.
Alors, dans la définition de l'altération de la conscience, c'est quelque chose de très simple en fait. C'est que si on parle d'altération de la conscience, cela présuppose qu'il y ait une conscience non altérée.
Oui.
Certains préfèrent, dans certains chercheurs aujourd'hui, préfèrent imaginer qu'il y a toute une série de types, de modalités d'être au monde, mm-hmm. donc d'états de conscience. La conscience étant un phénomène relié à l'attention et la mémoire et au rapport au monde. Et donc, nous pouvons clairement avoir plusieurs types de fluctuations dans ce rapport au monde qui vont avoir une influence sur certaines catégories comme le temps, comme la parole, comme le ressenti du corps, le ressenti du temps, comment il se passe. Parce qu'il y a des moments où le temps peut se passer lentement. Il y a parfois certains rêves où des jours, des semaines, des mois peuvent se passer, alors qu'en réalité, il ne se passe qu'une seconde. Et à l'inverse, il se peut parfois qu'un rêve dure très 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 longtemps, alors qu'en réalité, il nous évoque des images qui ne durent que quelques instants.
Oui. Merci David pour ce petit... aperçu aussi du débat qu'il y a derrière ça, parce qu'effectivement, il y a une tendance à utiliser ces mots un peu dans tous les sens. Donc, effectivement, ce que j'aimerais bien explorer avec vous, c'est comment ces mots puissants nous amènent à la poésie. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de lire déjà quelques petits mots ?
Oui, je veux bien. Moi, je t'ai apporté un bouquin qui s'appelle « Les techniciens du sacré ». C'est ton mot, dans l'intitulé de ton émission, c'est le mot archaïque qui m'a fait penser à ce livre qui est sorti l'année dernière. C'est une anthologie de Jérôme Rottenberg, en fait. Et dans cette anthologie, c'est une anthologie de textes très, très anciens, en tout cas issus de toutes les cultures du monde, au niveau du temps, au niveau de l'espace, ça vient de partout. Et il y a ce livre, en fait, c'est un double livre. Il y a l'anthologie de ces textes issus de peuples premiers, comme on dit maintenant. Et puis, il y a tout un système de notes qui les notes de ce bouquin, en fait, se constituent comme un deuxième livre. Les notes qui expliquent, David a parlé des rituels, les notes expliquent les rituels, dans quel contexte ce texte-là bien particulier a sa place dans un rituel. Et puis aussi, les notes font référence à à ce qui se fait peut-être de plus contemporain, en tout cas ce qui s'est fait de contemporain durant le XXe siècle, à un moment donné en tout cas. Donc il y a des mises en parallèle entre ces textes anciens et des textes très très contemporains. Ce qui fait que c'est un livre également, tu parlais de dynamisme dans la transe, c'est un livre très très dynamique aussi. C'est pas une anthologie où tu as juste que du texte. Tu as du texte, oui, bien sûr, mais tu as aussi d'où vient ce texte, pourquoi il a été écrit, donc ça c'est tout ce qui. Enfin, pourquoi il a été écrit, dans quel ensemble il s'insère, un ensemble de. Tu parlais de rituels, donc ça peut être du dessin, ça peut être de la musique, ça peut être. Il y a parfois des textes qui font quelques lignes, 5-6 lignes, et en fait ils sont issus d'un rituel qui dure 9 jours, par exemple, tu vois. Donc c'est vraiment nous ce qu'on a là, ce qui est chez nous, ce qu'on considère comme poésie, un truc traditionnellement, je veux dire, simplement imprimé. En fait, la dimension poétique, elle est articulée avec les autres arts également.
Oui, dans plusieurs.
Oui. Donc voilà, c'est très intéressant. Alors Jérôme Rottenberg, en mettant ça en parallèle avec des pratiques du XXe siècle, où on insère la musique dans les lectures, où le texte sort de la page littéralement, j'ai envie de dire, n'est pas simplement qu'un texte imprimé. Ok, Rottenberg a compris qu'en fait il y avait un parallélisme à faire avec ce que les anciens, très anciens, faisaient déjà, quoi, en fait. Donc ça, je trouvais très intéressant l'intitulé de ton émission m'a tout de suite fait penser à ce bouquin-là, quoi, en fait. Oui. Bon, moi, je peux pas te faire le rituel de 9 jours, hein, ça, c'est hors de question. Je vais juste te lire.
Le son, il est là.
Oui, je l'entends.
Elle est là. L'entends. La danse, elle est dans nos têtes, dans nos imaginations.
Alors, c'est un extrait, je vais juste vous lire un extrait, je ne l'ai jamais lu en public, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors voilà, c'était extrait du livre rouge d'Ergest, ça vient du Pays de Galles. Que la crête du coq soit rouge, naturellement forte sa voix, lorsqu'il émerge de son lit triomphant, ce qui réjouit l'homme, Dieu le recommande. Que les porchers soient joyeux lorsque soupire le vent, que le silence soit gracieux, que la vie s'accommode du malheur, que le régisseur récure, que le mal soit un tourmenteur. Que les habits soient ajustés, celui qui admire le barde, qu'il soit un bon donateur. Qu'un monarque soit aussi véhément que brave et qu'il ait une clôture devant la brèche, il ne montrera pas son visage, celui qui n'a rien à donner. Que les coureurs aux pieds agiles gagnent le flanc de la montagne, que la tension se porte au centre, que l'inconstance soit déloyale, que le valet soit éminent, que le voleur soit prudent, que la femme riche peut être abusée. Le meilleur ami du loup est le berger qui paraisse. Le meilleur ami du loup est le berger qui paraisse. Le meilleur ami du loup est le berger qui paraisse. Que le valet soit éminent, que le cheval soit rapide, que le lettré soit ambitieux, que le prévaricateur soit déloyal, que les vaches et le taureau, que le loup soit gris, que le cheval soit vif, piétinant les épis d'orge, que le souffle vienne des filandres, il pressera le grain jusqu'aux racines, que le sourd soit courbé, que le captif soit lourd et laisse le cheval dans la bataille, comme les filandres, il pressera le sol, il pressera le grain du sol, que le crêtre du coq soit rouge, naturellement forte, sa voix, lorsqu'elle émerge de son lit triomphant, que le crêtre du coq soit rouge, rouge la crête du coq lorsqu'il émerge de son lit triomphant. Voilà.
Merci. Donc l'auteur du recueil ça s'appelle
L'auteur de l'anthologie, c'est Jérôme Rottenberg.
Ok. Voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, la puissance des mots est dans leur performance et dans tout le contexte. Et on est fort entraîné quand tu lis comme ça, de cette façon. C'est vraiment l'énergie qui passe.
Mais tu dis que tu passes à la voix comme ça par un texte. Moi, je pense que tu rajoutes une dimension que tu ne la vois pas toujours dans la page écrite.
Dans la page, oui.
Il y a cette dimension du souffle, il y a une dimension que tu dois ajouter quelque chose au texte. Oui. Oui.
Et tu as un fort caractère. Ta façon de lire est fortement caractérisée et reconnaissable.
Oui, pareil. En tout cas, oui, pareil.
Oui, tu donnes. Même si. C'est pas ton texte, mais ça devient ton texte à chaque fois que tu
lis. Disons, c'est comme ça, c'est moi qui le. Moi, je suis pas acteur, donc je sais pas jouer un texte. Je peux pas l'interpréter comme un acteur sait le faire. Donc, ce que moi je y ajoute, c'est chaque fois ce que je peux faire, moi, en tant qu'être humain, je veux dire. Je sais faire que ça. Donc, fatalement, c'est ce genre de choses qui m'intéresse aussi, de rajouter. C'est mon petit ajout, mon petit plus, si tu veux.
Ouais. Très bien. Et David, tu veux lire un texte tout de suite?
Non, je vais écouter un peu de musique, si tu veux.
Tu veux écouter un peu de musique? Moi, je voulais ajouter juste quelques mots sur le fait que, effectivement, cette dimension de la performance, de la musique et des autres dimensions du mot qui s'ajoutent, elle est bien présente dans la troupe poétique Nomade et la maison d'édition Maelstrom. Elle est, disons, la troupe est liée à la maison d'édition Maelstrom, pour ceux qui ne le savent pas encore.
Mmh.
Et il y a les bootlegs dont vous avez publié, que vous avez publié chacun de vous aussi, qui sont justement une mise en page, une impression des performances que la troupe poétique Nomade fait dans plusieurs endroits. Et donc, oui, on pourrait peut-être laisser de l'espace à la musique, laisser de la place à la musique.
Dimmi.
Vorresti magari spiegarci un po' di più cosa è l'ipnosi, cosa non è l'ipnosi? Perché nella pratica, invece, proprio più psicanalitica, potresti svelarci qualche
segreto.
Segreto.
Quindi, vediamo un po'. Per fare un legame, un lien, con la performance di la lettura di Vincent di prima, bisogna sapere una cosa, che molti studi dimostrano oggi, molte analisi anche delle attività cerebrali, analisi delle attività cerebrali per risonanza magnetica, che sono quelle più interessanti, dimostrano che abbiamo parti diverse del nostro cervello che si attivano al contenuto di una frase e parte altre che si attivano al tono di una frase. Dunque, per una stessa frase ci sono parti diverse del nostro cervello che analizzano e sono in due emisferi diversi.
Mm-hmm.
Conosciamo alcune ipotesi e tesi sulla specificità degli emisferi,
sì,
a destra e a sinistra, che grosso modo sono valide, che sono molto spesso una semplificazione, però che farebbero dell'emisfero destro qualcosa di più sintetico, onirico, poetico, potremmo dire,
mm-hmm,
sensibile al tono, per esempio, sensibile al soffio, al ritmo, e la parte sinistra più analitica, più linguistica, più grammaticale. Capisci quello che chiedo a Vincent, per quelli che non vedono nulla? E quindi nel lavoro con l'ipnosi, con l'ipnoterapia, siamo formati a tutto questo, a fare attenzione anche a tutto l'aspetto non verbale, a fare attenzione al ritmo, al tono della voce, attenzione anche al soffio e al ritmo della persona. E questo va sempre messo en abîme, in prospettiva, perspettiva, su una cosa molto complessa, che l'ipnosi, diverso dalla trance di cui ho parlato, è allo stesso tempo uno stato, un'età,
mm-hmm,
un insieme di tecniche, un ensemble de techniques,
mm-hmm,
e una relazione, è una relazione. Quindi, quando qualcuno viene e dice mettimi sotto ipnosi, mets-moi sous hypnose, non si dice sì, ora ti metto sotto ipnosi, dormi e non rompere più i coglioni.
Mm-hmm.
Si dice, ora vediamo, se lavorando insieme, a un certo momento, tu vorrai e riuscirai con insieme di cose che io ti proporrò, a entrare in una trance ipnotica. E questo è tutto diverso rispetto a certi a priori che esistono rispetto a una certa pratica diretta, direttiva dell'ipnosi, che non era cattiva, non era brutta, era semplicemente di un'altra epoca. Questa di oggi non è migliore, è semplicemente della nostra epoca. Quella del futuro sarà un'altra ancora. E dunque, a grande richiesta, siccome Daniela me l'ha chiesto, è una mia amica che ho sentito prima al telefono, mi diceva: ma guarda che se tu parli dell'ipnosi vorrei che tu dica questa cosa, perché così non va. Mi ha detto questa cosa, che ora ripeto: di che non si può dire dell'ipnosi che tu obbedisci e fai tutto quello che ti pare con chi è sotto ipnosi. Allora lo dico, come Garibaldi, obbedisco.
Lei te lo ha detto e evidentemente devi dirlo. Adesso non hai scelta, poiché
detto.
Daniela sì, ti ha ipnotizzato. Le donne sono così.
Molte donne.
Molte donne sono così.
Sono molti uomini anche, sono molto bravi. Questo lo sappiamo, che uno dei problemi degli uomini è da sempre la donna.
E il problema delle donne?
E il serpente.
Le mele non le consideriamo. Non complichiamo troppo la situazione. Niente, vedo che Gabriella T sta scalpitando per prendere in mano un microfono. Perché non ti unisci a noi?
Innanzitutto, siccome Giulietta è così brava, la lasciamo fare, soprattutto perché parla molto meglio di me il francese, poi perché lei è la persona che ha avuto l'idea di Hic et Nunc. E come al solito voi sapete che la tela sonora è un momento per raccogliere emozioni, e attraverso la poesia, attraverso chi come David Giannoni, come la Troupe Nomade, Benjamin Pottel e tanti altri che hanno già partecipato, riescono a lavorare sulle parole insieme a volte alla musica, attraverso lo slam e con tutto un nuovo modo di avvicinarsi alla parola poesia, noi siamo riusciti con la tela sonora appunto attirare queste emozioni, questa forza, questa energia, e espanderla on the air, quindi nello spazio. Quindi la tela vuole essere qualcosa come un boomerang, cioè raccoglie un buco nero, succhia, tiene dentro di sé e poi riespande, rilancia nello spazio. E devo dire che dopo un anno quasi di lavoro, perché la tela sonora è già più di un anno all'interno dello spazio di Brussellando, e poi abbiamo deciso di dare più spazio alla tela perché avevamo tantissimi poeti, siamo riusciti, direi, a ottenere dei grandi risultati, perché le persone ci conoscono moltissimo di più all'estero che quasi qua a Bruxelles. Tant'è vero che gli italiani, i poeti italiani, sono in una lunga lista di attesa. E presto riusciremo probabilmente anche a organizzare dei concerti in diretta con delle persone che hanno quindi prima scritto poesia e poi si sono resi conto che la poesia da sé in sola, quindi col testo scritto, non bastava, e hanno unito anche la forza della musica. E quindi Hic et Nunc, qui ed ora, era anche un po' lo scopo di Giulietta, di far riflettere le persone che poesia non è la classica poesia alla quale noi siamo abituati, che è sempre valida, ma sta diventando qualcosa di più, sta diventando anche un mezzo per accendere le coscienze delle persone che sembrano abbastanza addormentate. Quindi, siccome con i ragionamenti troppo razionali non si arriva più a scuotere le coscienze, giustamente, come diceva prima David, attraverso l'ipnosi si entra in relazione in un modo diverso. Quindi con la poesia unita alla musica cerchiamo di fare questo lavoro qua alla tela sonora, e direi che ci stiamo riuscendo benissimo. Quindi adesso ricedo la parola a Giulietta, così magari va avanti col nostro ospite.
Come spiegavi, per l'ipnosi noi usiamo il tono della voce, usiamo il ritmo della voce, il ritmo delle parole, i silenzi quanto gli spazi occupati dalla nostra voce, e usiamo l'interazione con i suoni.
Oui.
Oui.
Et on peut faire de l'hypnose aussi sans parler.
Justement.
Sans mots. Parce qu'il y a des gens qui sont muets. Il y a des gens qui sont sourds. Et il est possible aussi d'arriver à des états de transe sans utiliser le langage. En utilisant le rythme du toucher, par exemple. En utilisant le toucher, en utilisant un rythme qui paraît sonore comme celui des tambours, mais qui sera perceptible par contact interposé, par vibration, etc., etc. Par lumière, hein, par des séquences lumineuses.
Ouais. Et alors, est-ce qu'on sait faire de la poésie sans mots?
Rapaciedo.
Oui. Si. È una risposta chiara. Tu n'as pas compris?
Rapaciedo, non.
Ah. Bon, moi, oui. Très bien. Ben oui, parce que effectivement, on est ici pour faire de la poésie. C'est une émission de poésie.
J'avais pas compris, excusez-moi.
On est là pour ça.
Non, je ne crois pas. Je crois même que tu vas nous lire un petit extrait.
Je ne vais pas lire, je vais lire un extrait pour une simple raison. C'est un texte publié dans un petit bookleg hein, qui s'appelle Œil ouvert, œil fermé. Et je vais lire juste une partie de ce texte, à moins que je n'arrive pas à m'arrêter, et donc on verra. Pour rendre hommage à un personnage qui a été un grand hypnothérapeute ou un grand hypnotiste à son époque, qui était Moïse. Hein, on se rappelle de certains épisodes avec les pharaons, on se rappelle des fameuses histoires de l'eau qui devient toute rouge et qui devient tout d'un coup rouge sang, du fameux bâton qui devient serpent et qui redevient bâton, etc., de la lutte de Moïse avec les fameux mages du pharaon. Et voilà, dans mon mémoire, à l'époque, sur l'hypnose, à l'université, j'avais situé comme l'une des références dans l'histoire de l'hypnose, entre autres cet épisode hein, de Moïse, et puis avant d'aller plus loin dans l'histoire. Et je voulais en fait, dans cette histoire et que je raconte ici, raconte d'un malentendu et de quelqu'un qui peut-être s'est vexé un peu trop vite.
Tu peux faire avec toi ?
À volonté.
Tu nous dis, moi je m'arrange.
Tu peux lire le dessin aussi.
Ouais.
On dit de Moïse, qu'il revint des cimes électriques du Sinaï, avec le regard incendié de celui qui a vu un dieu, les bras chargés de nouveaux principes et l'estomac vide de toute forme de nourriture.
Vide.
On lui proposa alors un peu de vin et un peu de pain. L'invitèrent à dîner à peu près 40 familles. Au terme, on lui offrit une danse, des chants et une invocation à la fertilité du peuple élu.
Ils dansent, Moïse.
En nombre, ils avaient sacrifié leurs bijoux pour lui faire ce cadeau, une création collective, un magnifique veau d'or.
Un veau d'or.
Souvenir et exorcisme d'un passé qui n'était pas si éloigné.
Moïse, éloigné.
Habitué à tant de silence et à une solitude de fer, lui, sérieux, se vexa. Il ne comprit pas pourquoi, alors que lui vivait dans le jeûne, dans la privation et la souffrance constante d'avoir été abandonné, l'on pouvait faire preuve d'autant de légèreté. Il décida
alors
toute une nuit durant, de réécrire et de corriger ses règles à lui dictées par un rêve incertain de son Dieu. Il décida alors de détruire les tables originelles, que jamais personne ne puisse un jour en connaître le vrai contenu. Mais d'abord, il prit à part un homme et une femme, muets et analphabètes. Et à l'oreille, il leur murmura les principes divins. C'est ce qui fit toute la nuit, également avec un couple de chaque espèce du monde animal. Quelques plantes, quelques cailloux aussi eurent cet honneur. aujourd'hui, le monde, un certain monde, notre monde, continue de perpétrer cette séparation entre le sacré vivable et le sacré invisible. Nous, au milieu de ces deux réalités, l'ascension au ciel intérieur adviendra, mais combien de temps gâché à ne pas danser, à ne pas vivre la fête? Combien de siècles encore à critiquer, à se dessécher, à attendre demain pour vivre? Devons-nous vraiment pour cela attendre que les muets parlent? Que les pierres se transforment en êtres ailés? Non. À présent, j'invoque le droit à une vie meilleure et plus légère,
le droit
dans le cœur d'or de mon moi. Le désir de danser n'a pas de répit. Flèche rapide la conscience quand les mains pleines, les yeux pleins, pour savourer, capter un vide qui se remplit de soi. Et alors, danse, crée, vis, aime, cours ou marche, c'est selon. Trébuche, relève-toi. La vie poésie te veut, toi aussi.
Toi aussi.
Voilà. Merci.
Merci.
Avoir un Saint-Tolomé en cœur musical. C'est du grand luxe.
C'est du grand luxe.
Ça vise bien. Moi, j'ai vu le dessin, tu vois.
J'ai compris.
Parce que le texte de David était accompagné d'un superbe dessin.
Une autoroute.
C'est un personnage qui s'appelle San. C'est un personnage qui est à l'intérieur de nous. Et voilà, il est dans différentes postures. Il y a grosso modo 70-80 dessins qui existent comme ça. Et dans ce petit bouclet, j'en ai mis quelques-uns.
Toi aussi, Vincent, tu parlais, si je me souviens bien, d'un petit personnage qu'il y a à l'intérieur de nous.
Oui, oui, oui.
Ça te dit quelque chose?
Non, mais oui.
Non, mais oui.
Tout un monde à l'intérieur de nous, je pense. Même, il y a un personnage et des mondes, oui.
Oui. Donc, c'est très bien. Moi, je voulais pas seulement voir cette dimension de la poésie. Je voulais aussi parler de l'exploitation qu'on fait aujourd'hui des mots. Parce qu'on est bombardé de mots, notamment dans les médias. Ici, on est dans une radio, donc on est en train de bombarder de mots pas mal de gens. Mais effectivement, ces mots sont utilisés dans plusieurs dimensions, même si elles sont niées d'autre part, mais finalement, par la publicité, par exemple, ou la politique, elles sont tout à fait exploitées, cette autre dimension. Et cette puissance des mots, elle est reconnue, elle est utilisée. Et donc, aussi, l'appel que je ferai est de bien sélectionner les mots qu'on laisse arriver à notre conscience et qu'on fait, auxquels on donne la puissance d'agir sur nous. Et
je ne sais pas si Vincent a des choses à commenter par rapport à ça. Mais il y a peut-être deux choses qu'on peut rappeler aussi, c'est que les mots peuvent toujours être réinterrogés. Trop souvent, c'est ce que tu dis aussi, nous les subissons comme nous subissons les images. Il y a par exemple une rubrique sur une chaîne câblée très connue, que je trouve horrible, qui s'appelle, pas la chaîne câblée, hein, la rubrique, qui s'appelle No Comment. Elle est horrible parce qu'elle prétend que l'image parle d'elle-même. Une image, quelle qu'elle soit, ne parle jamais d'elle-même. Parce que c'est quelqu'un qui l'a prise, cette image. Et il nous raconte des choses. La façon dont c'est monté et c'est transmis nous raconte des choses. Donc réinterroger le récit qu'on nous donne, au-delà du mot, est toujours une opération de santé.
Moi, je voudrais rajouter un truc par rapport à ça. Tu dis réinterroger le récit. Pour l'instant, en fait, apparemment, il y a pas mal de politiciens ou de peut-être d'autres personnes dans les milieux économiques, je ne sais pas trop pour l'instant, qui sont en train en fait d'utiliser toutes des techniques d'écriture de récits fictionnels, donc des techniques fictionnelles, pour nous parler de la réalité. Ouais. Et nous, on voit ça dans la télévision, on entend leurs discours, et qui ont été construits comme des fictions, c'est-à-dire qu'ils utilisent quand tu regardes un film ou tu lis un bouquin, un roman, les mots te touchent parce que l'auteur, il utilise des techniques aussi, il y a ça entre autres, et puis il y a tout son talent, toute sa manière à lui de faire surgir les choses, mais entre autres il utilise certaines techniques. Et ces techniques-là, utilisées dans les médias, consciemment par les hommes politiques, je veux dire, je pense surtout au président d'un pays du Sud, là, juste à notre Sud, ça veut dire que ce qu'il dit, ce qu'il met en place, c'est une fiction, quoi. Mais présenté comme une réalité, comme étant le vrai, quoi. Et ça, je trouve que ça, si tu parlais de dévoiement, ça, c'en est un fameux, quoi, pour moi, un fameux. Et ça passe, quoi, comme si de rien n'était, comme une lettre à la poste, quoi, tu vois.
Oui.
Ça, je trouve ça assez... c'est très étrange pour moi, ça, très étrange.
Et le langage poétique, on pourrait dire, ou les langages poétiques, comme les langages oniriques, comme les langages hypnotiques, peuvent aider à réinterroger cela, parce qu'ils appartiennent beaucoup plus au champ, on pourrait mettre à NT et à MP, si on voulait, au champ, au pluriel, du polysémique. Donc de ce qui a inévitablement plusieurs significations.
Tout à fait.
Et donc le rôle de celui qui écoute est vraiment actif dans la perception
Le texte que j'ai lu tout à l'heure, donc issu du Pays de Galles, c'est un vieux texte, c'est pas écrit par un auteur contemporain, c'est pas écrit par un poète surréaliste. Les rapports entre les mots, les rapports entre les choses font que ça a une allure surréaliste, je vais dire, hein. Et alors que c'était un texte hyper traditionnel des paysans du Pays de Galles, quoi, je vais dire, hein. Donc, comme dit David, quand tu utilises cette manière de faire poétique, cette façon de se faire rencontrer les mots en utilisant le rythme dont tu as parlé tout à l'heure, le souffle, etc., les images qui surgissent, fatalement tu réinterroges, tu réouvres les mots. Tu les réouvres, ils ne sont plus donnés tels quels comme une vérité, quelque part. Toi, en tant qu'auteur, tu ne donnes plus une vérité. Ce qui se passe, c'est que toi, en tant qu'auditrice ou auditeur, tu vas... projeter une interprétation. Tu vas y être perméable à ces mots. C'est toi qui vas y mettre du sens aussi. Tu as une part très active. D'autant plus active que, pour reprendre sur les rituels dont on parlait tout à l'heure, si on est dans les rituels et toutes les choses ainsi, comme dans les anciens, chez les anciens, par exemple, fatalement, on est dans une autre dynamique. David a parlé, donc, de si j'ai bien compris tout à l'heure, avec les spécificités du cerveau, cette dimension-là, vocale, le ton de la voix, etc. Ok, on est dans autre chose. La poésie permet de au-delà des faits, au-delà de la réalité, de toucher à cette réalité-là, quoi. Cette dimension-là, de l'être humain, en fait. Donc voilà, et ça, je pense que c'est l'intérêt, en fait, de lier de la poésie, d'en faire soi-même, d'en écrire soi-même, de la proposer aux autres tu as parlé d'anthropoétique tout à l'heure, à travers toutes des dimensions comme celle-là, c'est super important.
Oui. Donc en fait, là, on se sauve un peu aussi de cette reproche qu'on fait à la poésie d'être hermétique, d'être inaccessible. En fait, non, c'est un défi à celui qui écoute. Le défi est de devenir actif et de comprendre, de faire sa propre lecture.
Il y a plusieurs types de poésie, et moi j'ai déjà vu, je vous assure, ça vous ne me croirez jamais, des matchs de football tout à fait hermétiques.
David, senti, io invece ti volevo chiedere una cosa più che so che ti porta via un sacco di energie, che è la Farof. Abbiamo parlato fino adesso di poesia e di dare l'opportunità quindi al fruitore, quindi alla persona che legge, e di accogliere le parole, di interpretarle, di farle proprie, quindi in qualche modo di utilizzarle per venire fuori da questo guscio dove tutti noi ormai siamo senza saperlo inconscientemente, e quindi è un lavoro grosso che facciamo sulla nostra anima. Quindi tu hai avuto un'idea insieme ad altre persone già 2 anni fa, diciamo quasi 2 anni fa, che poi si è concretizzato l'anno scorso, di organizzare una fiera off, Io non dico nient'altro, dico solo Fiera Off. Magari il resto ce lo racconti tu.
Io aggiungo libro.
Ecco, Fiera Off, libro, no, parola.
Brevemente.
E poi vai avanti.
L'iniziativa, per quanto mi riguarda, l'iniziativa più profonda è quella del Festival, che quest'anno, nel 2009, a maggio, a metà maggio, avrà la sua terza edizione. E lì è un lavoro che maturava da 10 anni. La Fiera Off è venuto lo sgancio, l'idea, da Patrick Lowy, che insieme ad altri poi ha proposto, e noi abbiamo cominciato a lavorarci sopra, di dare un'importanza a editori, editoria indipendente, cose che non si vedono in maniera usuale. Vincent farà parte anche della programmazione sia dell'in che dell'off, per esempio, in quanto poeta. Sì. Però probabilmente all'off sarà forse in un modo un po' più diverso che all'in. Questo è per mostrare che non c'è opposizione, ma si fanno altre cose. E lì è Damian Spletters che ha curato la programmazione delle performance e della musica nell'off. Poi ci sono molte altre cose, il sito è 3w, come si dice in italiano, www.le-off.be.
Le-off. Sì, e il festival, tra l'altro, l'anno scorso ha visto una performance importantissima dal punto di vista della parola e del potere delle parole.
Io vi invito tra 2 mesi a prendere appuntamento con 2 siti, il sito del festival e il nuovo sito di internet di Maelstrom, che cambierà completamente. E il festival dal 14 al 16 maggio, con molte sorprese, ma questo abbiamo tempo per parlarne.
Ecco. Invitiamo un'altra volta David verso marzo.
O qualcun altro,
No, invitiamo te. Qualcun altro.
Quindi, cari ascoltatori, vi salutiamo e l'appuntamento.
Grazie.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Io volevo l'appuntamento dire che domani è per domani.
Domani alle ore 16. Alle ore 16, sabato alle 16, con Max Ponte in diretta dall'Italia e con Gentian in regia.